Mes merveilleux amis, bonjour. Bienvenue à mon crabeau. Est-ce votre première visite ici? Allons bon, il me semble vous avoir déjà rencontré. Ici, le pays d'Albret se vit avec humour et fantaisie. J'ai deux théories concernant votre venue à mon crabeau. Soit vous êtes comme un petit agneau innocent, ignorant la réputation de notre cité, soit vous êtes curieux et peut-être même fief et menteur. Car la particularité première de ma belle cité est d'abriter le siège des bonimenteurs, c'est-à-dire l'Académie des menteurs. J'en fais moi-même partie et porte le titre honorifique de grand maître. Tout au long de cette visite, vous me devrez donc respect et flatterie. Suivez-moi. Vous voici donc à mon crabeau, un village que vous ne pouvez manquer, que vous veniez de Nérac, Condon, de la Baïse ou d'ailleurs. Mon crabeau est en effet accroché à son coteau, dominant la vallée. Sous ses allures pittoresques, mon crabeau s'étend tout de même sur près de 5000 hectares. C'est l'une des plus grandes communes du canton de Francescas. Elle est le résultat de l'addition de 5 hameaux, Artigues, Pouilly-sur-Loss, Marcadis, Gardère et Sainte-Cyrice. L'habitat y est disséminé, tout comme au Moyen-Âge. Peut-être est-ce dû aux dinosaures qui peuplaient la région et avaient besoin d'espace pour s'ébattre et brouter. Non, je vous taquine. En vérité, si mon crabeau ne dispose pas de grottes naturelles ayant pu servir d'habitation à la préhistoire, c'est seulement en l'Antiquité que des traces d'habitations humaines sont constatées. Mais dans les restes de la villa de Bateste, splendide palais de l'époque gallo-romaine, rien ne précise si nos ancêtres s'adonnaient déjà à l'art du mensonge. Vers l'an 1000, le village est sous la protection de la très puissante abbaye de Condon. Le village va petit à petit se moderniser. On ne parlera pas encore de télévision, mais les Paillardans, premier seigneur de mon crabeau, fortifient le château, créent de nouvelles routes et concourt à l'édification de l'église paroissiale, actuellement placée sous la protection de Sainte-Marie-Madeleine. Si la façade et le clocher datent du XIVe siècle, on pense que la construction globale de l'édifice penche vers 1120-1130. Au XIIIe siècle, mon crabeau disposera même de 15 édifices de culte. Si certains ont disparu depuis, de nombreuses églises pourraient faire l'objet de votre curiosité. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, affaires politiques et catastrophes naturelles continueront à transformer la physionomie du village. Les affrontements entre catholiques et protestants, ou même la peste, n'épargneront pas notre belle cité. Mais parlons de choses plus gaies. S'il est une date à retenir, c'est sans aucun doute celle de 1748. Date de création de l'Académie des menteurs. À ce propos, je me permettrai de vous lire ces quelques lignes, écrites par un inspecteur des manufactures en 1778. À 2000 lieues, est la petite ville de mon crabeau, célèbre par ses habitants qui ont passé de tous les temps pour être les menteurs les plus déterminés de France. Elle est placée sur la pointe d'un coteau, élancée et rapide. Ce fut un chanoine de Condon qui donna lieu à la plaisanterie des patentes de mon crabeau en proposant une académie des menteurs dont il serait le chancelier. Ces patentes se trouvent surtout chez les marchands d'images. Les patentes, chers amis, étaient en fait de faux diplômes humoristiques, signés par un certain monsieur Le Fourbe ou autre baron de Crac. Ces faux diplômes dépasseront bientôt les frontières de mon crabeau pour parcourir la France. On les imite. On les reproduit pour le bon plaisir du royaume. On sait également que le nord de la France ainsi que la Belgique seront totalement séduits par cet humour. La naissance des histoires belges a peut-être eu lieu en Gascogne. Qui sait ? Bon, à présent, j'ai comme une irrésistible envie de vous raconter une petite menterie. Allons, dans la rue Cocussotte, je vous en dirai plus. Alors voilà, il y a quelques décennies de cela, vivait un jeune couple. Bien malheureusement, le mari partit en guerre. Et il laissa ses deux jambes. Et oui, les deux. Heureusement, il apprit très vite à se mouvoir et à se cacher. Si bien qu'il devient éclaireur. Mais un jour, la guerre finit. Croyant entrer dans son logis et retrouver une femme aimante, il ne trouve en fait qu'un coiffeur qui avait su tirer couverture à lui. L'amant, apeuré, s'enfuit par le jardin, le cul de jatte à ses trousses. Alors que le premier saute allègrement par-dessus le muret, il se met à provoquer le mari et conduit. Je m'en vais vous faire des dialogues.
Tu sautes ou tu veux que je te fasse les pattes? Tu veux mon pied au cul? Répondit le cocu. Mais ne te fâche pas, c'est pour te faire marcher. Et si tu es un homme, saute, cocu. Allez, cocu, saute!
Le mari, rouge de colère, saute et se tue sur le coup. C'est pour rendre hommage à cet illustre inconnu que la rue porte aujourd'hui son nom, enfin son sobriquet. Une cérémonie a d'ailleurs lieu tous les ans à cet endroit. Dommage pour vous, c'était hier. Ah, ces petites menteries, on ne s'en lasse pas. Mais j'oubliais, je ne vous ai pas encore raconté comment et pourquoi mon crabeau s'était appelé comme ça. Réparons l'erreur. On dit que mon crabeau, Mons Crapellus en latin, devait son nom aux nombreux troupeaux de chèvres auxquels on donnait à manger le salpêtre qui recouvrait les pierres alentour. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la ville est une vraie place forte située en hauteur que bien des guerriers ont essayé de s'approprier. Mais malgré les sièges, les habitants résistaient grâce aux chèvres qui leur fournissaient lait, viande et œufs. Quoique, pour les œufs, je ne suis pas sûr. Mais bref, un jour, les Anglais qui essayaient de conquérir Mézin, toutes proches, s'attaquèrent à mon crabeau. Et ce ne furent pas tant les soldats qui les repoussèrent, mais plutôt l'insidieuse odeur de bouc qui émanait de la cité. C'est ainsi qu'on apprit que les Anglais avaient un odorat très sensible. Je vous invite à présent à aller vous asseoir dans le fauteuil des menteurs. Sa simplicité est faite pour accueillir et mettre en valeur les plus belles fantaisies. Le fauteuil date probablement du premier quart du XVIIIe siècle. Une pierre encastrée, au-dessus de lui porte l'inscription « Pierre de vérité 1748 ». Tant que vous êtes là, je voudrais bien vous introniser parmi nous. Pour cela, vous devriez être vêtu d'une robe rouge à grandes manches blanches et d'une coiffe blanche pour les femmes ou d'une robe rouge accompagnée d'une petite cape blanche et d'une toque rouge pour les hommes, mais exceptionnellement, vous pourrez conserver vos habits. Alors, répétez après moi, je jure de travestir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Parfait! Vous feriez sans doute un bon menteur. Les halles vont à présent vous accueillir. Place de la Halle, dans les années 1920, on a pris l'habitude de se réunir. Qui ça? Mais tous les habitants, ou presque, de mon crabeau. L'un d'entre eux, le docteur Fica, ressuscite la tradition des menteries et c'est toute la culture populaire et paysanne de la Gascogne qui revit bientôt ici. Comédies, chansons, contes résonnent encore en ce lieu de leur accent gascon. L'éveillé gascon connurent ainsi un franc succès auprès de la population jusqu'à la guerre. De vieilles cartes postales représentent la foule amassée autour des acteurs de ces veillées traditionnelles recréées. Et depuis 1912, c'est l'Académie des menteurs, cette fois-ci belle et bien organisée en association, qui remporte un franc succès. Et si le nombre des académiciens est limité à 40, vous vous doutez bien que nous recevons des demandes d'adhésion chaque année, y compris d'acteurs célèbres et d'hommes politiques. Oui, mes amis! Allez, voyons maintenant les surprises que nous réserve Francescas. À votre avis, d'où provient le nom de Francescas? Je vous donne plusieurs possibilités. Est-ce le nom d'une chanteuse qui jouait du clavecin debout? Est-ce plutôt le nom du vin qui fait parler espagnol si on en consomme trop? Eh bien, pas du tout. Francescas tire son nom de la franchise de tout impôt sur les maisons qui avait été accordée par le roi Charles IX. Sa fondation, quant à elle, était assurée par des bénédictins qui fondèrent un monastère au XIe siècle. Francescas devint une bastide anglaise, comme on en trouve énormément dans le pays d'Albret, en 1286. Elle possédait ainsi un château, une porte d'entrée principale et des fortifications. Ces dernières, encore visibles et sur lesquelles les maisons ont l'air de prendre appui, dateraient du XIVe siècle. ne manquait pas l'église paroissiale. Elle date du XIIIe siècle et est particulièrement remarquable pour sa tour carrée. De la même époque, la maison de la Hire est elle aussi incontournable. Elle se trouve au 7 de la rue d'Arajega. Son nom lui vient d'un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Étienne de Vignolles, qui vécut entre 1390 et 1442. Il était en effet surnommé la Hire, ou encore Colère de Dieu, sans doute pour sa hargne au combat. Avec Poton de Xaintrailles, un village voisin, il devint capitaine et aida la Pucelle d'Orléans à délivrer cette même ville. Cette maison médiévale était adossée au rempart humain. Endommagée à la fin du Moyen-Âge, puis réaménagée au XVIe ou au XVIIe siècle, cette maison a conservé des éléments intéressants, comme une baie géminée, une cheminée à haute conique. D'autres demeures plus récentes méritent également le détour, comme la maison de Maître de la Marque, qui date de 1620, ou celle de Cerba, qui est fin XVIIIe siècle. Mais assez de guerre et de combat. Je vous emmène à présent découvrir un petit musée très étonnant, celui des boîtes en fer blanc. Le fer blanc désigne la tôle d'acier doux, d'épaisseur inférieure à 0,5 mm, recouverte d'étain. S'il a servi à la fabrication d'ustensiles, il est vraiment reconnu dans celle des emballages alimentaires. Je suis sûr que vous avez en tête un ou deux motifs célèbres de ces fameuses boîtes que possédaient nos grands-parents. Peut-être même les collectionnez-vous. Et saviez-vous que cela porte un nom? Avez-vous une petite idée? Non! Il s'agit de la boxophérophilie. Une appellation bien savante pour désigner la collection de ces petites boîtes du quotidien. Au musée, vous découvrirez qui sont les maîtres du fer blanc, comment il est arrivé en France et vous pourrez admirer des exemplaires assez rares et anciens. Vous aurez presque l'impression d'entrer dans une ancienne épicerie. Ça sent peut-être même encore la chicorée ou le chocolat. Allez, trêve de plaisanterie, allons à la Montjoie. La Montjoie est une autre bastide qui a été fondée peu après Francescas en 1298. Son nom était alors la Montjoie Saint-Louis. Le secteur était réputé pour abriter autant d'arbres que de brigands. Et croyez-moi, il y avait quantité d'arbres. Toujours est-il que la Montjoie était bâtie sur un plan assez simple qui va faciliter votre visite. Il y a en effet une place centrale, une église dans l'angle du sud-est et autrefois, tout ceci était entouré de remparts et de fossés. Aujourd'hui, ils ont été aménagés en jardin. Flâner sous les galeries de la place Nemours, celle-ci, également nommée Couvert, date des 18e et 19e siècles. Pour replonger au temps des fondations de la Montjoie, rendez-vous devant l'église. Son édification a débuté lors de la construction de la Bastide, au XIIIe siècle. Et si elle a été reconstruite et probablement agrandie au XVIe siècle, la partie s'élevant au nord est vraisemblablement d'origine. À l'intérieur, vous découvrirez qu'elle possède des chapelles latérales et surtout, tout un décor peint qui s'anime sur les différents chapiteaux. Il y a des motifs d'anges et également des animaux fabuleux et légendaires. Un des chapiteaux représente un roi couronné. Tenant un sceptre, il s'agirait de Saint-Louis, à qui l'église est dédiée. Outre ces 11 chapiteaux, 31 culots sont également décorés de manière fantaisiste. Un Christ souffrant côtoie un Indien d'Amérique. Les feuilles de choux se mélangent à des fleurs de lys ou des salamandres. Décidément, l'Albret n'a pas fini de nous étonner. Entre richesses architecturales et paysages naturels, on ne saurait presque plus où donner de la tête. Heureusement, vous m'avez suivi et écouté patiemment. Les menteurs vous en sont reconnaissants et vous épargneront peut-être à l'avenir de leur taquinerie. Ou pas. À bientôt les amis.